Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, comme je le disais à Pierre et Sylvie ce midi, m'émeut d'autant plus qu'il y a 4-5 ans, là, je faisais mes auditions blanches ici parce que j'avais demandé la messe pour les concours CNRS. Et donc, voilà, j'étais venue présenter à l'époque des travaux et puis découvrir le laboratoire. Effectivement, la commande qui m'a été faite, c'était de parler de mon livre de thèse. Et j'ai bien insisté pour savoir si c'était pas la BD, mais on m'a dit non.
Non.
Du coup,
c'est sérieux dans ce laboratoire.
Du coup, je me suis replongée parce que ça fait. J'ai commencé un peu un nouveau chantier. Mais alors, effectivement, je vous parle de l'ouvrage et puis aussi des. De quelques articles qui ont pu paraître autour. Là, je vais avoir du coup une vision un peu plus peut-être large par rapport au livre ou j'en sais rien, qui permet d'intégrer les développements ultérieurs à la thèse. Et en fait, assez classiquement, ce que je vous présentais en introduction, c'est le contexte institutionnel et politique un petit peu présidé au démarrage de la thèse. Et puis après, je voudrais revenir avec vous sur trois résultats qui sont dans l'ouvrage et les mettre à la discussion. En utilisant des données quantitatives, mais aussi beaucoup une enquête ethnographique qui est au cœur de l'ouvrage. Et je vais vous présenter tout ça en 40 minutes. Vous me coupez. Évidemment, là, je commence un peu de manière provocatrice par la citation de Nicolas Sarkozy, qui est alors candidat à l'élection présidentielle en 2007. On est en janvier. Et dans le programme de campagne, il met vraiment en avant la politique de soutien à la propriété pour tous, avec un objectif quantifié, chiffré à l'époque, qui est de faire de la France un pays de propriétaires, 70% de propriétaires. À l'époque, en 2006-2007, il y a 57% de propriétaires en France. C'est un chiffre qui stagne en gros depuis les années 84-85, où il y avait 54% de propriétaires. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas beaucoup plus évolué, on a 58%. Et l'objectif, la justification, c'est pour ça que j'ai mis cette citation, c'est que on voit bien que l'enjeu de politique de logement, il dépasse, en fait, il dépasse simplement les conditions de logement et de vie des ménages. Il mêle l'idée que le soutien à la propriété, c'est aussi une manière de résoudre la crise. Alors à l'époque, on n'est pas loin des émeutes urbaines, mais de résoudre la crise du vivre ensemble dans les quartiers d'habitat ségrégé. Hein. Il faut favoriser la propriété pour favoriser la sortie des quartiers, des ménages qui sont stables, etc. Il faut aussi faire de la propriété ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait avant lui un patrimoine social. Et donc là, on voit que ça rejoint toute la réflexion sur l'évolution des modèles de welfare state, en Europe en particulier, où l'idée que le logement, ça doit plus seulement être une prérogative de l'État ou un marché régulé par l'État, enfin en tout cas très subventionné par l'État, mais pris en charge par les individus parce que c'est une protection face aux accidents de la vie. Là, hein. Quand on accède à la propriété, on est moins vulnérable aux accidents de la vie. En gros, on fait mieux face aux situations de chômage, à la retraite, etc. On a un toit pour soi. Et ça, c'est vraiment une justification politique qu'on retrouve dans les pays qui promeuvent la propriété individuelle du logement, par exemple, effectivement, en Angleterre. Et on voit surtout le clivage idéologique et politique très fort qui entoure cette politique de soutien à la propriété, avec l'idée, certains proposent le logement social pour tous et la taxation des propriétaires par les droits de succession. Propose la propriété pour tous. Et ça s'inscrit, c'est pas nouveau. Hein. Donc Sarkozy relance cet objectif politique au milieu des années 2000. Mais le premier grand tournant de soutien à la propriété, c'est Valéry Giscard d'Estaing et la commission Barre hein, de réforme des aides au logement, 75-76, qui essaye de développer le marché de la propriété individuelle et notamment encourager le développement du crédit, l'accès au crédit des ménages et les rendre solvables par les aides à l'accession à la propriété, soit sous forme de prêt aidé, hein, le prêt à question populaire, soit les allocations de logement qui ciblent directement les ménages, locataires ou propriétaires pour les aider à accéder à la propriété. Donc un petit peu le point de départ de la thèse, quand je commence en 2008, c'est ce soutien assez massif à la propriété. Et du coup, la question, l'enjeu assez simple, enfin pas assez simple, gros, mais du coup un peu la question simple que je posais un petit peu, c'était déjà comment elle est mise en œuvre cette politique nationale de logement, comment elle est déclinée localement. Là, c'est une partie que je vais moins traiter ici lors de ce séminaire. Et également, il y a des articles dans Politics avec des collègues qui ont vraiment réfléchi à la mise en œuvre au niveau local, le rôle des élus, aussi des intermédiaires du logement, mais je vais plus me cibler ici sur les effets de la propriété sur les ménages, de trois points de vue, à la fois qu'est-ce que ça fait sur leur localisation, la distribution spatiale des populations, ce soutien à la propriété, donc comment ça répartit les groupes sociaux dans l'espace, et en particulier les groupes populaires, qui m'ont, donc ouvriers, employés, qui m'ont plus intéressée parce qu'ils étaient ciblés en fait par ces politiques. La deuxième question que je vais travailler enfin, avec vous ici, c'est la question de l'accès au crédit immobilier et de ce que l'endettement du coup fait à l'économie domestique. Qui est un sujet en fait où il y a plein de trucs encore à faire super et pas beaucoup de connaissances. Les économistes trustent un peu le sujet, mais il y a vraiment beaucoup de travail et évidemment une difficulté d'accès au terrain parce que les banques sont pas super coopératives. Mais voilà. Et le dernier, je voudrais interroger peut-être les effets, parce que souvent on analyse en socio-urbaine ou voilà, on segmente un petit peu les analyses, ce qui est du logement, du résidentiel et puis ce qui reste des modes de vie ou du rapport au travail, à l'emploi. Et là, par l'enquête que j'ai fait, c'était pas un choix théorique au départ, hein, c'est juste qu'en suivant les familles dans les lotissements, etc., j'étais amenée à voir leur mode de vie, le rapport au travail, à l'école, etc. Et donc là, je voudrais un petit peu revenir avec vous sur les effets, sur les trajectoires notamment d'emploi des femmes peu qualifiées. Avec la grosse question générale, mais un peu voilà, est-ce que ça soutient la propriété finalement pour tous, favorise une forme de mobilité sociale pour les ménages qui sont ciblés ou pas? Alors, l'enquête, je dirais, le gros morceau, enfin le principal matériau sur lequel je me suis appuyée, c'est une monographie d'une commune périurbaine de l'Est lyonnais, à peu près à 30 km à l'est de Lyon. Où je crois que j'ai la carte, voilà, qui est anonymisée là ici, Clézieux-la-Marieux, qui est en fait la troisième couronne d'urbanisation de Lyon, où il y a la première couronne de banlieue qui a été un peu voilà, tristement connue à l'est, Bron, Vénissieux, Bron, etc. Puis une banlieue pavillonnaire qui s'est développée dans les années 50, autour de juste avant l'aéroport de Saint-Exupéry aujourd'hui bloque urbanisation et donc l'urbanisation est rejetée derrière là du coup la commune sur laquelle j'ai travaillé est une des communes qui accueille le plus la construction neuve aujourd'hui dans la région lyonnaise et donc j'ai travaillé sur un des lotissements neufs qui se crée dans cette commune, un lotissement de 64 lots qui a été fait dans le cadre d'une ZAC, hein, dans une petite commune de 6000 habitants. Et cette commune, en fait, a développé des lotissements tout au cours des années 2000, à moitié en accession libre, à moitié en accession aidée. Alors aidée, ça veut tout et rien dire, et des dispositifs avec des seuils de revenus et des niveaux d'engagement de la commune qui sont plus ou moins élevés. Là, c'était le niveau d'accession dit le plus social, c'est-à-dire avec les passes foncières, qui sont des dispositifs où l'État prend en charge l'accession du foncier pendant que le ménage rembourse uniquement la maison. Et quand il a fini de rembourser la maison, le ménage passe au remboursement du foncier. Donc ça permet d'étaler dans le temps le remboursement et de diminuer les charges de remboursement. Et les communes sont fortement engagées là-dedans parce que elles sélectionnent les ménages qui ont ces aides parce qu'elles versent des subventions. En fait, l'État, c'est un dispositif national, mais qui est soumis au versement par les communes d'une aide financière aux ménages. Donc entre 2000 et 4000 euros, les communes doivent aider les acquéreurs. Voilà. Et donc dans ce lotissement, il y avait la mise en place de 9 passes foncières sur les 64 lots. Un petit, en haut à droite, un petit terrain avec du logement social qui n'a toujours pas été construit aujourd'hui. Et avec l'idée pour le maire de la commune qu'il fallait faire vivre les écoles, favoriser l'accession des ménages, des jeunes ménages du coin qui n'arrivaient pas à acheter, et puis pas devenir une banlieue dortoir, donc se différencier des banlieues. Donc le principal, matériau, ça a été cette monographie de lotissement où j'ai suivi entre 2008 et 2012. Au cours de séjours d'enquête répétés, 43 familles qui s'étaient installées, c'est-à-dire que les dernières maisons n'étaient toujours pas sorties de terre quand j'ai fini ma thèse. Je me suis dit, bon, j'attends pas la construction pour finir la thèse, sinon j'y arriverai pas, mais voilà. Donc, que j'ai suivi en amont, au moment des chantiers, de l'installation. pas mal d'archives en mairie pour savoir l'évolution de la commune, du peuplement, avec les données du recensement. C'est très intéressant quand c'est des petites communes qu'on a accès à leurs archives facilement, et les recensements nominatifs en fait, hein, qui sont pas encore, qui n'ont pas encore été récupérés par l'INSEE, où on peut voir la composition des familles, les PCS, la nationalité, voir l'origine, le pays de naissance, etc. Donc c'était très bien pour voir l'évolution du peuplement de la commune depuis les années 60. Et puis les intermédiaires du logement, donc typiquement le promoteur, enfin l'aménageur du lotissement, des lotisseurs, c'est des constructeurs de maisons individuelles en série, genre Maison Punch, Top Duo, etc. Donc qui étaient souvent situés dans l'Est lyonnais en première couronne à Bron. Donc voilà, je venais soit avec, voir les agents commerciaux, soit leur pavillon modèle, et des banquiers qui avaient distribué des prêts ou des actions. Et puis accessoirement, j'ai fait donc une exploitation secondaire de l'enquête nationale logement de l'INSEE en comparant en particulier deux vagues à l'époque. 2006, parce que l'enquête 2013 de logement n'était pas sortie, donc c'est celle-là là, qui est maintenant disponible. Et 84, parce que c'était l'enquête qu'avait utilisé beaucoup Pierre Bourdieu sur les structures sociales de l'économie, où il étudiait le marché de la maison individuelle. C'était les données qu'il avait mobilisées, où il montrait à la fois le processus de démocratisation de la maison individuelle dans les années 80, en gros l'accès des ouvriers qualifiés et des professions intermédiaires au pavillon. Et puis voilà, du coup, voir ce qui s'était passé. Donc j'ai essayé de reconstruire la catégorie de primo-accédant en maison individuelle et comparer ce qu'elle était devenue en 2006 et tout ça. Et donc, peut-être sans surprise, voilà, donc premier résultat. Donc j'avais fait mes séries longues de 84, etc., jusqu'à 2006. Bon, bah, on voit que l'écart dans les taux d'accession à la propriété des groupes sociaux, des PCS, bon là, c'est pas trop dans le détail, mais se creuse entre 84 et 2006. Donc, concrètement, il y a les ouvriers et puis les employés accèdent en proportion moins à la propriété que les cadres dont la part dans les primo-accédants a augmenté. Donc ça, c'était juste le point de départ général pour dire, bon, bah, d'une part, les catégories populaires qui sont visées par les dispositifs, malgré la mise en œuvre de ces dispositifs au cours, à partir de 95, PTZ, et puis après 2000, il n'y a pas d'effet rattrapage, voire il y a même un effet de distance sociale accrue dans l'accès à la propriété. Puis après, je regardais où elles s'installaient quand elles arrivaient à accéder à la propriété. Et donc, je compare dans les enquêtes logement la commune de résidence des primo-accédants avant achat et après achat. Et donc, on a le type de commune, hein, rural, périurbain ou urbain. Et donc, sans surprise, hein, les cadres avant achat sont plus urbains, donc ils sont plus localisés dans les centres urbains. Quand ils accèdent à la propriété, ils se périurbanisent un petit peu, mais l'effet de périurbanisation, voire de ruralisation des accédants, il est plus fort en fait pour les catégories populaires. Donc, autrement dit, quand les ouvriers employés accèdent à la propriété, ils partent un peu plus souvent que les cadres ne partent dans les territoires péricentraux que les autres. Donc il y avait un effet de périurbanisation des classes populaires. Alors là, j'ai rajouté cette slide qui n'est pas dans le bouquin ni dans la thèse, mais qui est en fait le fruit d'une collaboration avec un économiste de l'INED, où en fait, du coup, ça c'était mon résultat de thèse sur les primo-accédants, et on a demandé les bases, l'ensemble des accédants PTZ, donc prêt à taux zéro de la France, à la Société de gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale, donc qui est une espèce d'agence qui gère pour l'État, qui garantit les prêts des accédants aidés, et qui centralise en fait les données des 3 millions d'accédants qui ont pris un prêt à taux zéro. Et donc c'est pareil à la commune de résidence avant et après achat. On a regardé ce qui se passait, et ouf pour moi, les résultats de la thèse étaient plutôt validés par les analyses quantitatives qu'on a pu faire sur cette base, et qui confirment en fait cet effet de périurbanisation. On peut le regarder par différentes entrées, pôle urbain, donc type de commune, taille de commune, ou encore aussi quelque chose qu'on a rajouté, c'est la composition sociale de la commune avant et après achat, où on voit que les cadres restent dans des communes de cadres, même si c'est des communes plus rurales, alors que les ouvriers, on a des communes où les ouvriers sont encore plus surreprésentés qu'ils n'étaient avant. Donc il y a un effet d'éloignement géographique, mais aussi un effet de renforcement d'un mécanisme de ségrégation sociale qui existe déjà. Voilà, alors après, j'ai juste pour ce cadrage un peu général, quand je suis, selon le conseil de mon directeur de thèse, Stéphane Beau, en fait, il était là, il faut pas trop lire, il faut vraiment aller sur le terrain, etc. Et c'est vrai que j'avais un peu fait l'inverse, j'avais passé ma première année de thèse à lire à la BNF sur le périurbain et tout ça. Et en arrivant sur le terrain, justement, c'est une question qui n'était pas apparue dans mes lectures, c'est de dire, mais qui peuple ces espaces, non seulement du point de vue des PCS, mais aussi des parcours géographiques, des origines nationales, etc. Et quand je me suis rendu, donc c'était un non-sujet en fait, ça évidemment, parce que le périurbain était vu comme en gros l'espace d'accès à la propriété des classes moyennes salariées blanches depuis les années 70, hein, celles qui sortaient des cités HLM ou des nouvelles classes moyennes salariées. Et la question de est-ce que c'était des nationaux, des personnes issues d'immigration ou pas, ça n'existait pas, d'autant plus qu'il n'y avait pas de statistiques là-dessus. Et en fait, sur le terrain, la commune où j'ai travaillé, tout de suite, c'était évident. En interrogeant les ménages, plus de la moitié c'était des accédants immigrés, voire primo-migrants. Donc pas issus d'immigration, vraiment des personnes qui avaient fait un parcours très rapide dans le parc locatif privé ou social et qui accédaient à la propriété dans ces espaces. Donc je me suis dit, regardons, est-ce que c'est si marginal que ça? Est-ce que l'accès à la propriété des immigrés dans le neuf et en individuel est si marginal? Et donc juste je rappelle, ça c'est les données qu'il n'y avait pas à l'époque dans les enquêtes logement encore, donc c'est Théo, trajectoire origine, qui permet un petit peu de mesurer ça. On voit qu'en fait près de 40% des immigrés sont propriétaires, la moitié des descendants d'immigrés, donc c'est quand même assez massif, et que par ailleurs quand ils accèdent à la propriété, deux tiers vont dans l'habitat individuel, des maisons. Donc c'est dans des proportions pas s'éloigner de la population dite majoritaire dans Théo, c'est les non-immigrés, je vais pas revenir sur la définition qui a été un contour assez précis, mais en gros, c'est très proche des 70% de la population métropolitaine qui accède aussi à la propriété en individuel. Et donc là, c'était un petit peu pour avoir des données de cadrage sur qui étaient ces ménages qui peuplaient ces espaces et qui se saisissaient en particulier des dispositifs d'aide à l'accession. Qui était mise en œuvre et développée depuis les années 2000, essentiellement passe foncier. Et sachant que les dispositifs, j'ai oublié de le dire, sont pas exclusifs les uns des autres. Vous pouvez avoir un prêt à taux zéro et un passe foncier, un prêt à taux zéro doublé et un passe foncier, etc. Différentes choses. Et en fait, qui solvabilisaient beaucoup, beaucoup les ménages, parce que pour donner un ordre de grandeur sur les terrains sur lesquels j'ai travaillé, une maison, donc c'était des maisons de 80 mètres carrés environ, des pavillons dits d'entrée de gamme, 80 mètres carrés, avoir un petit garage, sur des terrains de 400 mètres carrés, elles se vendaient 200 000 euros entre 2008 et 2010, donc en gros 80 000 à 100 000 pour le terrain et pareil pour la maison. Et les dispositifs d'aide permettaient en gros d'apporter à peu près 100 000 euros sans taux d'intérêt, puisque c'est soit le prêt à taux zéro doublé de l'État, cumulé au passe foncier, etc. Donc un effet de solvabilisation assez massif. Alors après, l'enquête de terrain, concrètement, je ne suis peut-être pas assez précisée, au départ consistait à faire du porte-à-porte dans tout le lotissement que j'avais identifié, qui était neuf, pour me dire, ils viennent d'où, quelles ont été leurs trajectoires d'accession, comment ils ont financé, c'est qui le constructeur, etc. Avec l'idée, comme c'est des pavillons qui se ressemblaient beaucoup, que c'était une population très homogène, et en fait, évidemment, en reconstituant avec les entretiens les anciennes communes de résidence, l'âge d'accès, le montant du crédit, le type d'aide, etc., je voyais se dessiner des groupes, trois gros groupes d'accédants, en gros. D'une part, la population ciblée par le maire, qui voulait faire un lotissement dit à l'américaine, et qui était plutôt avoir des familles de cadres moyens de Lyon, avec jeunes enfants qui s'installaient là, etc. Donc il y avait un tiers d'accédants qui correspondait à ça. Un tiers, c'était des ménages ouvriers qui travaillaient Pont de Cherui ou dans les agglomérations, dans les usines autour, et qui étaient plutôt des ménages beaucoup plus âgés. Donc ça se voit, les effets qui étaient en fait à des moments différents de leur parcours de vie et qui étaient plutôt avec des enfants grands, voire au lycée, voire en BTS, qui avaient travaillé dans les usines, qui étaient des ouvriers stables, intégrés, en locatif, souvent locatif social, et pour lesquels le lotissement constitue un petit peu un effet d'aubaine dans les environs, avaient acheté là, mais sans changer vraiment leurs conditions de vie, de travail, puisque ils passaient 500 mètres entre l'ancien HLM et le lotissement, et ils restaient dans les emplois dans lesquels ils étaient, etc. Et puis un troisième groupe qui arrivait en dernier, au moment où le lotisseur, à partir de 2009, ne vendait plus les lots Et là, c'est là où la commune a décidé de faire du pass foncier pour aider au remplissage du lotissement. Et se sont installés ce que les premiers accédants des premières tranches ont appelé les familles de cité, etc., qui pour le coup étaient des familles locataires des grands ensembles de l'Est lyonnais, des cités de Vaux-en-Velin, beaucoup de Bron. Et ce qui était très intéressant en étudiant les trajectoires précisément, c'est qu'elles venaient de trois ensembles résidentiels sans se connaître, mais les mêmes. Et en fait, les mêmes, c'était pourquoi ? C'est parce que soit les constructeurs de maisons individuelles, soit les agences du Crédit Foncier, du Crédit Immobilier de France avaient des guichets à proximité de ces cités dans lesquelles il y avait eu de la publicité pour ces lotissements, etc. Parce que pour une grande partie de ces ménages, c'était pas un choix d'aller au Vert ou d'aller à Clézieux parce qu'on aimait Clézieux et le village de Clézieux, etc. C'était un arbitrage sous contrainte budgétaire les aides à la propriété étant à l'époque ciblées sur le neuf, il fallait aller dans le neuf, là où ça se construisait, et donc c'était généralement ces communes de l'Est lyonnais. Une partie des entretiens, je suis revenue plusieurs fois parce que c'était pas un sujet facile à aborder immédiatement, c'était les conditions de financement, d'accès au crédit, etc. Au début, j'avais présenté l'enquête sur, je travaillais sur les nouveaux quartiers de la commune, le nouveau quartier, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Une entrée un peu neutre, voire valorisante, puisque des ensembles. Hein. Et puis, au fur et à mesure, quand même, je disais, est-ce qu'on pourrait revenir sur comment vous avez acheté, les banques, le crédit, les prêts, etc. Et demander aussi à avoir les archives personnelles, ça veut dire les contrats de plan d'endettement, de plan de financement, donc les tableaux d'amortissement des banques, etc. Et c'était intéressant, pas seulement pour avoir les chiffres exacts, c'était intéressant parce que en fait, je me suis rendu compte en interrogeant les ménages et en pouvant faire cette comparaison systématique qu'il y avait une partie d'entre eux qui savaient pas dire le type de prêt qu'elles avaient eu, le montant, la mensualité, la durée ou la variation dans le temps. Et au final, au début, quand on lit un petit peu la littérature là-dessus, on voit souvent revenir deux choses. C'est un éco-estade là-dessus qui dit les ménages prêts à s'endetter à tout prix. Donc en gros, les classes populaires vont à fond dans l'accession, ils veulent à tout prix accéder, mais c'est dangereux pour eux. Et en reconstituant les trajectoires d'accession, je me suis rendu compte que d'une part, une partie d'entre eux, en fait, au départ, ne cherchaient pas à acheter, mais à se relocaliser dans l'habitat HLM de meilleure qualité, avaient contacté les bailleurs en disant je suis à Vaux, est-ce qu'on pourrait faire une demande pour Lyon, Lyon 3e, etc. Et à force d'attendre, on était parti dans l'accession. Mais donc, je reconstituais vraiment quelles ont été les démarches, en quelle année vous avez commencé, vous avez été dans quelle agence, vous avez fait quoi, qui a écrit, à qui, etc. Vous êtes allé voir quoi, comme vous avez visité quel appartement, etc. Donc, premièrement, ils n'étaient pas du tout prêts ni rassurés à l'idée d'entrer dans des parcours d'accession. Je ne sais plus si j'ai mis... Et la première question, c'est est-ce qu'ils s'engagent avec cette idée, comme l'écrivait cet article d'EcoEstat de 2005 et puis d'autres, cette idée, ils veulent accéder. Non. Et ça, c'était assez intéressant, c'est que la plupart de ces ménages de classe populaire, alors attention, on est dans une classe populaire très stable, avec des emplois, on est des ménages biactifs, on est dans des ménages qui sont à la frontière classe populaire, classe moyenne, et toujours ce discours, mais non, ça fait très peur, on part sur 25 ans, on n'achète pas une voiture, c'est un gros investissement, on n'est pas sûr d'y arriver, qu'est-ce qu'on fera si on n'y arrive pas, donc hyper peur du surendettement. Au contraire de l'idée qui se jette là-dedans à corps perdu. Et là apparaissait effectivement le travail central des intermédiaires du logement, c'est-à-dire concrètement des conseillers financiers des banques et des constructeurs, notamment dans les salons de maisons individuelles, dont le boulot consiste principalement à rassurer les ménages sur la sécurité financière du projet d'accession, vous arriverez à rembourser. En construisant essentiellement un chiffre assez rassurant à entendre, la mensualité du crédit reviendra au montant du loyer. Donc, il fait un chiffre unique qui donne l'idée que finalement, vous êtes à 830, c'est ce qu'elle dit, cette femme, qui est secrétaire dans une PME de transport routier. Quand on a fait les calculs au Crédit Immobilier de France, c'est vrai, on a été super bien renseignés aussi. Elle nous a dit, voilà, ça fait 30 euros de plus par rapport à ce que vous payez actuellement, toutes charges comprises. Et après, quand je lui demande exactement, mais c'est quoi du coup le prêt, c'est quel taux? Elle me dit, bah, c'est un taux variable. Donc déjà, voilà. Mais je lui dis, qui varie par rapport à quoi? Bah, je sais pas trop quoi. Donc en fait, très souvent, c'était très intéressant parce qu'il y avait eu le moment où l'équivalence loyer mensualité avait été construite, intégrée, présentée par ces intermédiaires du logement qui faisaient figure de réassurance, mais qui derrière marquaient une relative incompréhension du mécanisme, enfin pas du mécanisme, mais de la structure du plan d'endettement. Alors après, la littérature disait, mais c'est normal, c'est des idiots culturels, c'est des ménages, ils sont pas acculturés au système bancaire, ils savent pas compter, ils ont pas fait d'études, je le dis simplement, mais c'est ça l'idée qu'il y a derrière, hein. Les cadres moyens et cadres sup, ils savent faire, ils savent calculer des plans d'endettement, ils savent faire des tableaux d'amortissement, ils savent manipuler Excel, en gros. Les autres, voilà. Et en fait, c'est ça la littérature. Et en fait, je me disais, bon, est-ce que déjà, tout simplement, ils ont le même nombre de prêts, la même durée de prêt, la même structure? Et donc c'est là où j'ai regardé, grâce aux enquêtes logement, je ne sais pas si j'ai mis le truc, la structure des plans d'endettement. Donc ça, c'est l'article de Société Contemporaine où je suis revenue dessus récemment, sur comparer pour les primo-accédants le nombre de prêts souscrits, la durée moyenne des prêts souscrits, et voir juste si en fait ils partent déjà d'un pied d'égalité au départ dans le... Et donc voilà, le premier résultat simple, cet article défend l'idée que en fait ils maîtrisent moins bien leurs plans, simplement parce que leurs plans d'endettement sont structurellement plus complexes. Ça veut dire qu'en gros ils cumulent 2,9 prêts pour un seul achat, presque 3, là où les cadres sont à 2 prêts maximum. Donc ils ont déjà souvent un prêt de plus. Après, ce ne sont pas des prêts de même nature, c'est-à-dire que les cadres professions intermédiaires, souvent des prêts de banque commerciale, banque classique, là où eux, ils cumulent des prêts aidés fournis par différentes institutions et ou collectivités. Par exemple, quand vous faites le pass foncier, c'est l'État qui paye, c'est la banque qui met en œuvre, mais il faut associer les collectivités. Ça veut dire que vous avez plusieurs intermédiaires et vous payez en fait une somme qui évolue au fur et à mesure du temps à différents financeurs. C'est pas la banque qui centralise pour vous, elle vous montre le plan d'endettement, elle vous dit que c'est facile, mais après vous, votre plan vous dit pendant 9 ans vous payez 830 euros par mois à 1, après le prêt à taux zéro doublé va se déclencher, donc ça va augmenter à 950, et puis après dans 25 ans il y aura encore, etc. Donc la durée d'endettement est plus longue et la nature, la nature des prêts en fait, elle varie dans le temps. C'est pas des prêts à taux fixe la plupart. En fait, ça, j'ai fait ce qu'on appelle aussi, après avoir fait une enquête de logement, des statistiques ethnographiques toutes simples. C'est-à-dire j'avais mon tableau Excel avec les 43 ménages que j'avais suivis et je notais le nombre de prêts, l'institution auprès de laquelle ils avaient souscrit le crédit, la mensualité, etc., etc. Et en fait, c'est massif, c'est déprimant, mais c'est massif. C'est que la totalité des prêts à taux variables ou capés étaient souscrits par les ouvriers en pays du lotissement, là où les cadres avaient tous des prêts à taux fixe, pas forcément un bon taux, mais déjà à taux fixe. Et puis, les institutions auprès desquelles ils s'étaient endettés, elles n'étaient pas les mêmes. Avant 84, avant 83, la dérégulation bancaire, il y a un monopole de l'État sur la distribution des prêts aidés. Avec la déréglementation, toutes les banques ont le droit de distribuer le passe foncier, prêt à taux zéro doublé, etc. Mais en fait, de fait, ce sont deux institutions qui continuent à les distribuer, c'est le Crédit Foncier de France et Crédit Immobilier de France, parce que, en fait, ils acceptent de prêter, c'est-à-dire de passer du temps à monter des dossiers complexes, puisqu'il faut centraliser les papiers, contacter différentes institutions, etc., mais en échange d'une rémunération assez forte sur les assurances liées au crédit ou sur le taux qui est procuré au ménage. Et donc là aussi, c'est pareil, résultat assez massif, triste mais massif. Les cadres s'étaient tournés vers des banques commerciales, Société Générale, BNP, etc. Et Crédit Immobilier, Crédit Foncier revenaient. Et c'était intéressant parce que c'était des agences spécifiques, notamment à Bron et à Vaux-en-Velin. Et au sein de ces agences, c'est là où on voit, donc j'ai pas le temps de développer ici, mais le rôle vraiment des intermédiaires qui sont très personnalisés, contrairement à l'idée qu'on a un marché impersonnel, c'est que c'était au sein de ces agences une personne qui était souvent à même de répondre, de monter et de rendre solvables les ménages. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en disant il faut que vous passiez le seuil de 33% d'endettement, on va regarder vos fiches de revenus, etc. C'est comment vous faire passer ce seuil, qu'est-ce qu'on prend en compte, est-ce qu'on rentre dedans, vos allocations familiales, vos allocations enfants handicapés, etc. Et donc, les constructeurs de maisons se passaient le mot, ils disaient pas il faut aller au crédit foncier, ils disaient il faut aller dans telle agence, voir Madame Truc, Madame Raffin, qui sait gérer ces dossiers. Et qui rendait solvables des ménages qui, dans d'autres banques, avaient été refusés. Donc là, c'est vraiment, on voit la construction non seulement de la rassurance financière auprès de ces ménages, mais aussi du travail de solvabilisation. Parce que je pense que vous avez tous en tête l'idée que il faut, que votre dossier soit accepté, il faut que vos mensualités n'excèdent pas 33% de votre. Et en fait, ça, c'est pas une règle juridique. Premièrement, ça n'existe pas. Et d'autre part, ce seuil, il veut rien dire parce qu'effectivement, tout dépend de ce que vous mettez dans vos charges, vos dépenses contraintes et dans vos revenus. Et il y a des banques qui ont des définitions très strictes, c'est juste les salaires hors 13e mois, hors prime, etc. Et d'autres qui ont une définition complètement extensive des revenus qui vont intégrer les allocations familiales, l'allocation adulte handicapé, votre fils a 15 ans, enfin voilà, c'est pas des cas inventés quoi. Le fils a 15 ans, la banque prend en compte ça, mais dans 3 ans, on sait que l'allocation diminue, donc enfin. Mais voilà, il y a des banques dont le travail consiste à rendre solvables des ménages qui le sont très peu. Et du coup, voilà, c'était des ménages qui avaient accédé vraiment par des agences très proches et souvent la même conseillère ou les quelques mêmes conseillers financiers. Donc des idiots culturels, non. Et voilà, ce qui ressortait de l'analyse, c'est prêt-aider et dépendance à des organismes spécialisés de crédit, dont ils devenaient complètement dépendants pour le passage du seuil de solvabilité et pour le calcul de cette solvabilité, avec une remise de soi très très forte à ces intermédiaires bancaires. Et là où je dis qu'il y a encore le travail, moi j'ai pas réussi à le faire, c'est vraiment ce qu'a fait Jeanne Lazarus sur le crédit à la consommation, plutôt le crédit à la consommation des classes moyennes parisiennes. Elle a travaillé, c'est pas à l'épreuve des banques, son ouvrage hyper intéressant, elle a travaillé sur les dossiers. Comment on construit, en fait, comment se passe l'épreuve du crédit, c'est-à-dire du point de vue du conseiller bancaire, la construction de la solvabilité du ménage et de sa bonne disposition à payer, puisqu'il faut qu'il évalue que, en fait, dans le temps, vous allez continuer à bien vouloir payer et pas vous rendre insolvable. Et elle a fait ça essentiellement sur un terrain parisien avec des classes moyennes qui ont une certaine aisance à manipuler, voilà, le langage, les chiffres, etc. Mais aucun organisme bancaire n'accepte d'ouvrir ces dossiers. Enfin, pour moi, j'ai pas réussi. Je m'étais dit, il faut que je me rapproche de la Banque de France pour aller sur l'endettement. Bon, ouais. Là où j'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance, non, c'est pas du tout de la chance, mais ce qui est fou avec cette histoire de livre et puis un petit peu de radio qui a été fait autour, c'est que de temps en temps, ça fait le troisième dossier de surendettement que je reçois de la part de ménages qui ont entendu parler du livre ou à la radio et qui envoient l'ensemble du dossier de surendettement, de mise en demeure de payer, etc. Où là, on rentre vraiment dans les procédures lourdes, quoi. Sachant que le surendettement en France pour motif immobilier est très très faible. On n'a pas eu de crise des subprimes, comme vous le savez, parce qu'on n'a pas été, enfin en tout cas pas direct. On a eu des retombées indirectes, mais pas pour surendettement, puisque les crédits sont gagés sur la stabilité des revenus et pas sur l'hypothèque de la maison. Donc il n'y a pas eu de vente massive de maison. Et il y a à peu près que 10% des dossiers de surendettement de la Banque de France qui sont liés au surendettement immobilier. Le reste, c'est plus de la consommation, même si on ne sait pas trop le passage de l'un à l'autre, quoi. Donc ça reste assez rare, et moi j'ai pas eu de surendettement dans ce sinon j'ai eu des reventes liées à des divorces, etc. Mais c'est des ménages qui arrivent très vite en fait au taquet de l'endettement dans l'organisation quotidienne, dans la limitation. Alors là, les effets sur l'arbitrage des dépenses, c'est souvent l'idée d'épargner d'abord les enfants. Donc voilà, les vêtements, etc. on continue, mais les loisirs on diminue. Et souvent, les ajustements, et c'est là où on va arriver à la troisième partie, ils se font sur les mobilités féminines, qu'elles soient quotidiennes ou liées au travail. Mais l'idée, c'est que, c'est pour ça que j'ai appelé un peu de manière provocatrice un logement sans emploi, c'est qu'il faut réduire à un moment la charge de dépenses et que les femmes, notamment les femmes qui travaillent dans le tertiaire peu qualifiées, hein, qui, je vous ai dit, ces fameuses familles de cité, donc qui travaillaient typiquement dans les supermarchés de l'Est lyonnais, progressivement, en fait, elles se retirent du marché du travail salarié ou elles quittent cet emploi, généralement à la faveur, en fait, d'un congé maternité où elles retournent pas travailler, parce que la mobilité est trop coûteuse dans le temps. Et pourtant, on a l'impression, quand je le dis, c'est pas évident. Et c'est, on entend ça aujourd'hui, attention au coût du transport, de l'essence, du péage, etc. Mais le fait est qu'il y a des ménages qui sont installés qui n'avaient pas de voiture, ou que la femme n'avait pas de permis, ou avaient ce travail qui ne sont souvent pas des contrats tremplin, ou en horaire décalé, donc pour lesquels il n'y a pas de service de transport public déjà rare, mais la nuit ou machin, et qui, au bout de quelques mois ou quelques années, à la faveur d'un congé maternité, ne retournent pas à travailler. Et donc, en fait, progressivement, deviennent un petit peu ce que Lionel Roger appelait les captifs du périurbain. En fait, c'est plutôt des femmes qui restaient au lotissement la journée et qui renonçaient à ce travail salarié payé. Et là, voilà, typiquement, cette vendeuse en puéricultrice qui est mariée à un employé boucher de grande surface, d'Auchan, elle a 29 ans, elle a deux enfants, et elle dit, bah voilà, quand je suis arrivée ici, j'étais à temps plein, j'avais que ma fille qui était très peu gardée par la nourrice, 20 heures par semaine, parce qu'on essayait avec les horaires de goupiller pour que mon mari soit là ou soit là, donc de s'alterner. Maintenant, avec deux enfants, c'est pas pareil, il va falloir recalculer si je fais un mi-temps, si je fais pas un mi-temps, tout se calcule, combien vaut une nourrice, etc. Parce qu'il y a deux choses, il y a le coût du transport et l'impossibilité recourir dans l'espace local à, pour le moment en tout cas, de l'aide informelle, des parents ou des proches qui prendraient en charge avec les enfants. Donc l'externalisation de la garde, marché de la nourrice, etc. est très coûteux, et donc voilà, progressivement un petit peu compromet le retour vers l'emploi, et Claudine, au fur et à mesure des enquêtes, disait mais en fait je vais peut-être j'aimerais bien un troisième enfant, etc. Et le mari disait non, on n'a pas les moyens, et la maison, il n'y a que deux chambres, etc. Bon, voilà. Et donc on voit en fait des stratégies d'ajustement avec aussi qui s'accompagnent d'une forme de spécialisation dans le travail domestique. Ça veut dire, bah, puisque je ne travaille plus, bah, c'est normal que je ne demande pas à mon mari de faire le ménage. Donc voilà, Claudine encore disait, voilà... C'est logique, je ne demande pas, il a un métier difficile, étant à la maison, serait déplacé de ma part, etc. Voilà. Et puis aussi un discours de justification du choix résidentiel. Ça veut dire qu'on présente souvent la maison comme une affaire de femmes, c'est les femmes qui veulent la maison, qui gèrent l'espace domestique, etc. Quand j'essayais de reconstituer les parcours d'accession, en fait, j'essayais de faire des entretiens de couple, ou alors... Déjà avec les deux, mais pas en même temps, mais de toujours voir les deux conjoints et de déconstruire un peu l'unité statistique du ménage qu'on a dans les enquêtes. Parce que dans les enquêtes, on dit, je sais pas, ils s'installent en maison, donc les ménages, préfèrent ci, préfèrent ça. Là, quand on reconstitue les arbitrages, qui voulait une maison, qui voulait s'éloigner, qui restait en locatif, etc., on voit que l'unité conjugale de prime abord qui dit, bah voilà, on a acheté une maison, c'est bien, etc., se fissure. Et qu'il y a des tensions très fortes, et qu'en fait le projet d'accession, le fait d'acheter une maison, de posséder sa maison, il est d'abord porté par les hommes au sein des foyers, et pas du tout par les femmes. Il y a plein de gens qui disent, moi, donc typiquement elle, moi ça m'aurait pas dérangé de rester sur Mions-Mézieux, à proximité de la famille, de l'entourage, etc. Mais voilà, c'est vrai, je comprends, et mon mari voulait son espace vert, il avait raison, les enfants aussi. Donc il y a une espèce de, dans le discours, de dissociation entre... c'est parfait. On va être plus bon. De dissociation entre la fonction maternelle, oui c'est bien pour les enfants qu'ils soient ouverts, les écoles sont mieux, etc. Et puis, identité féminine, c'est rare, ben, en même temps, voilà, j'ai renoncé à mes loisirs, je vais plus voir ma famille ou plus qu'une fois par semaine parce que c'est trop coûteux, etc. Et donc ça, c'est très, très, très intéressant, je trouve, de pouvoir comparer les points de vue féminins et masculins au sein des couples sur cette maison, l'aménagement, l'investissement auquel il donnait lieu, et un peu remettre en cause, enfin, ou critiquer cette idée que les femmes en pavillon, c'est des femmes qui sont plutôt conservatrices moralement, politiquement, etc. Toute cette littérature qu'on a, et qui avait été aussi pour partie véhiculée par Pierre Bourdieu dans la structure sociale et l'économie, des sociologues proches des cultural studies qui disaient, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez lu Judith Stacy, qui avait fait une grande enquête dans les années 80 sur des lotissements pavillonnaires nord-américains, où elle disait, de prime abord, on a associé, en fait, les ménages pavillonnaires à des structures familiales conservatrices, avec l'idée que les femmes qui habitaient ces maisons, elles étaient loin des révolutions féministes, loin des mouvements féministes, et comme elles n'en étaient pas, elles étaient consentantes à l'ordre établi, au fait de faire le travail domestique, etc. Et elle a dit, moi, quand j'ai commencé mes terrains, je pensais exactement que les familles blanches, en gros, de classe populaire, c'était les principales opposantes au mouvement féministe en cours, ou en tout cas, voilà, qu'elles étaient consentantes. Et finalement, à force de faire ces enquêtes, elle se rend compte que bah, y a plein de stratégies de résistance quotidienne, comme le fait d'aller... alors, aux États-Unis, ils sont assez structurés en paroisses ou cercles communautaires locaux, etc. Donc, ce qui n'était pas le cas dans mon pavillon, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de féminisme ordinaire. À un moment, je m'étais dit, est-ce qu'on peut dire, parce que ces femmes-là contestent un petit peu leur vie en pavillon, expriment des fortes résistances, ou parler d'une forme de féminisme ordinaire qui ne soit pas politisé, mais qui soit des actes de résistance systématique un peu plus. Et finalement, non, c'était trop fort aussi, parce que c'était des choses très individuelles, peu partagées, qui sont de l'ordre de la résistance individuelle quotidienne à l'assignation à des rôles domestiques, mais pas du tout une forme de politisation. Donc, j'ai un peu... Enfin, je suis pas rentrée dans cette idée de féminisme ordinaire, mais ce qu'on voyait, c'est des formes d'aménagement ou de résistance. Alors, soit de résistance vis-à-vis du conjoint immédiatement, l'idée que... on va, lui laisser les enfants pendant les vacances, la garde des enfants, et nous, on va retourner chez des cousines ou des copines à Lyon, à Bron, etc. Et il verra bien ce que c'est la vie de lotissement. Ou alors, typiquement, des femmes qui étaient très liées à leur mère, sœur, etc., et qui passaient beaucoup d'appels pour se plaindre, enfin, en tout cas, exprimer une forme de difficulté à vivre cette situation. Et puis d'autres aussi qui avaient essayé de développer ce que je travaille indépendant et ou au noir. Mais l'idée que voilà, on va remonter localement des formes alors de micro-entreprise ou d'auto-entreprise ou s'établir comme nourrice ou assistante maternelle ou essayer de passer l'agrément ou monter voilà, et avec l'idée en plus à l'époque 2009, c'était vraiment les discours, c'était le lancement de l'auto-entreprise, donc c'était vraiment un discours qu'on entendait beaucoup aux médias, etc. L'idée que c'était facile de s'établir à son compte et dans le pavillon on avait de la place, etc. Voilà, monter des structures, animation, je sais pas, d'anniversaire, voilà. Avec l'idée que comme ça, on allait se recréer un réseau de sociabilité et puis gagner des revenus, etc. Bon, évidemment, inutile de vous dire qu'il y a peu de femmes qui ont percé dans cette voie et qui ont trouvé une solution comme ça, mais des petites stratégies d'aménagement ou de résistance à la contrainte, sachant que les alliances féminines dans le lotissement, est-ce qu'il y en a eu des durables? Et l'idée, bah oui, tous les matins, parce qu'en fait c'est très simple en fait, voir les modes de vie en lotissement. Les lotissements aujourd'hui, l'urbanisme il est fait en boucle, donc vous mettez à l'entrée d'une boucle ou à la sortie, et vous voyez en fait dans les lotissements, c'est horrible, hein, la distance sociale entre ménages, elle se fait comme ça, vous voyez qui part travailler le matin, qui part pas, qui part la nuit, qui part le jour, donc en gros emploi tertiaire peu qualifié ouvrier versus emploi de bureau de cadre, et puis vous voyez comment les gens partent habillés. Est-ce qu'ils partent en basket ou est-ce qu'ils partent en habit de bureau? Voilà. Et ça, c'était des choses qui étaient massives de voir les horaires, enfin les modes de vie quotidiens très très vite. Et effectivement, les femmes, elles disaient, voilà, moi je sais que je suis la seule à partir de nuit. Moi, je pars en basket, mes voisines partent en talons ou je sais pas quoi. Et il y avait des classements, sans forcément par le voisin, mais des classements permanents, des jugements sociaux permanents sur le voisinage liés juste à l'observation des modes de vie. Est très très facile, lié à la promiscuité, lié au dispositif spatial, lié au fait qu'en plus on voit tout, qui se fait livrer ses courses par Picard ou pas, etc. Donc la surveillance, elle est permanente, hein, le contrôle social, enfin tous les trucs à l'IA, ça sur le commérage. Là c'est très intéressant parce que les ménages eux-mêmes collectent des indices de position sociale en permanence, non seulement sur le type de voiture, le type de pavillon. Quand vous achetez un pavillon où il y a 4 modèles, vous savez combien a été payé par qui, le prix du terrain exactement, ce que vous avez proposé le même, et c'était trop cher pour vous, donc vous savez que le voisin, il a eu 15 000 euros, etc. Et puis vous voyez au quotidien, comme il n'y a pas de, etc., il y a eu interdiction de murer, qui rentre ses courses, quelles courses, qui reçoit de la famille. Donc c'est vrai que là, j'ai moins insisté sur le... On en parlera peut-être dans les questions, sur la recréation d'une hiérarchie sociale locale très très rapide, très très forte. Inutile de vous dire que les dites familles de cité qui ont la malchance d'être racisées, enfin perçues immédiatement comme famille une femme béninoise, congolaise, etc. Donc immédiatement, voilà, étrangère, de cité, etc. Bon, au bas de l'échelle sociale. Et les alliances féminines, elles se font pas précisément parce qu'il y a l'enjeu de classement social très fort au départ. On veut pas, enfin, dans ces mobilités assez rapides où tous les ménages arrivent quasiment en même temps, il y a l'idée, on se situe où ? On connaît pas les voisins, tout le monde repart, la maison est neuve, et les quelques premiers mois, on voit qui peut payer son gazon, ses balançoires, ses volets, son crépi, etc., et vite se replacer dans une échelle sociale locale. Et donc, en fait, les femmes sont d'abord prises dans un enjeu de classement social avant de se dire, mais en fait, on est 15 à être à la maison toute la journée au lotissement, je peux pas parler à ma voisine parce que... parce que en fait, ces enfants sont bannis à l'école, ils redoublent, et c'est la famille béninoise avec l'enfant handicapé. Hein, voilà. Donc très peu d'alliances féminines en fait qui dépassent les clivages de classe. Alors attention, on n'est pas dans des échelles sociales très larges. Hein, c'est pas des cadres sup du privé. Enfin, c'est le plus haut du lotissement, c'était une femme inspecteur des impôts. Par voie de promotion interne, donc elle est passée catégorie B, A, etc. Et peut-être, alors deux ménages que j'ai pas réussi à avoir, parce qu'il y avait un couple de chômeurs, donc c'était extrêmement rare et très stigmatisé au sein du lotissement, et ils ont toujours refusé de me parler, donc c'était pas facile. Mais au bas de la hiérarchie sociale du lotissement, c'était des agents d'entretien de la communauté urbaine de Lyon, mais voilà, des fonctionnaires catégorie C. Surveillants pénitentiaires, etc. Donc on est quand même dans des ménages, comme vous disiez, stables, en emploi plutôt, sauf le 1. Et voilà, mais des enjeux de classement et d'autoclassement très très forts qui empêchaient en fait la structuration des alliances féminines. Ah oui. Bon, bah, Donc pour conclure, en fait, une des conclusions un peu tristes de la thèse, c'était, voilà, finalement, c'est la promotion de ce modèle pavillonnaire. Et là, est-ce que c'est pas les nouveaux HLM des années 60, en fait? On a beaucoup cru dans la forme HLM, le grand ensemble, en, voilà, 56, enfin, voilà, où on s'est dit, non seulement ça répond à la crise du logement, mais surtout ça a recréé une forme de mixité, ça mélange des ménages, hein. L'idée au départ, c'était de faire l'homme nouveau, quoi, un peu à la Corbusier dans les années 50-60. Et on s'est rendu compte que, oui, dans les premières années des grands ensembles, ça a mélangé des familles, ou de, enfin voilà, Chambord dans le Maire, hein, de milieux sociaux un peu différents, mais très vite, il y a un mécanisme de filtrage qui s'opère, il y a des familles qui repartent, donc les plus aisées et plus stables, et ne reste que ceux qui, en fait, peuvent pas en partir, avec un processus de paupérisation relative ou précarisation. Et les HLM à place, c'est une expression d'une enquêtée, qui avait acheté son pavillon, et en fait, qui est une des enquêtées qui avait utilisé cette expression, mais qui revenait dans, par ailleurs, qui était de dire, mais en fait, on est dans des HLM à plat, non seulement parce qu'on a eu des dispositifs d'accession sociale proches, enfin, qui les stigmatisent comme si c'était du logement social, du logement aidé, hein, les ménages, ça sent le passe foncier ici, bon, ça sent, ça, voilà, c'est, ça sent les ménages type logement social. Et puis, promiscuité, proximité spatiale, promiscuité, enfin, on s'entend, on se voit, c'est pas vertical, c'est horizontal, mais c'est très très proche, il y a des maisons, pavillons qui sont jumelés, bon, avec des défauts de construction, etc., mais les lotisseurs, il y a un aménageur qui a aménagé l'eau, mais les constructeurs, ils mettent leur maison à peu près n'importe où, et puis une fois qu'il y a une inertie très forte, hein, votre maison est posée, le maire a beau dire, ça respecte pas de plan de lotissement, il peut pas vous faire démolir, ou il le fait pas, il a pas intérêt, parce que, en fait, son lotissement, personne va pouvoir le raménager, etc. Et puis, surtout, en termes de peuplement, des effets, effectivement, là, déjà, au bout de 4 ans, des premiers ménages qui revendent pour se rapprocher des communes favorisées de Lyon, et d'autres qui restent, avec une forme de homogénéisation, plutôt vers le bas du lotissement. Donc, la question, voilà, c'est du point de vue, est-ce qu'on n'est pas, ces ensembles de lotissement, sont pas des équivalents structurels, voilà, des HLM, des grands ensembles HLM de première génération des années 60, où au début, voilà, c'est propre, c'est neuf et c'est relativement mixte socialement, et au bout de 5-6 ans, il y avait déjà les critiques à l'époque, hein, de c'est mal construit, il y a des défauts, il y a les premières familles plus stables qui s'en vont, qu'est-ce que ça devient, etc.